Midi 1. Mariam, Matin Famille.
Et merci à vous de nous rejoindre où que vous soyez en ce jeudi matin. Je vous le disais et vous le savez pour les plus fidèles d'entre vous donc, notre spécialiste en psychiatrie est avec nous et en direct ce matin depuis Casablanca, Dr Hutman Lohrabi. Bonjour.
Bonjour Mariam, très heureux d'être avec vous et bonjour à l'ensemble de la grande famille de Midi 1.
Et on est ravis de vous avoir ce matin également. Alors vous êtes spécialiste en psychiatrie, je le disais, vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. On parle ce matin de délire, cette perte du sens de la réalité et qui se manifesterait notamment par des convictions fausses auxquelles on adhère, auxquelles le sujet adhère totalement. Donc aujourd'hui, on tente de comprendre ce délire. Comment le définissez-vous, vous, en tant que spécialiste en psychiatrie ?
Alors, vous l'avez très bien dit, Mariam, c'est une perte de contact avec la réalité, en fait, qui prend la forme de croyances irréductibles et inébranlables qui sont dans la fausseté par rapport à la réalité. Donc, ce sont des convictions fausses, mais qui diffèrent très largement de ce qu'on pourrait appeler une erreur, parce que quand on parle d'une conviction fausse, on pourrait se dire que c'est une simple erreur, parce que la personne qui commet une erreur, bon, quand elle est face à ses contradictions, ou quand elle est face aux preuves qui démontrent que, justement, qu'il y a eu erreur, elle reconnaît volontiers son erreur, et puis, la croyance qu'il y avait au début, et qui était donc de l'ordre de l'erreur, est immédiatement critiquée et revue. Ce qui n'est pas le cas quand on parle de délire, c'est-à-dire, c'est vraiment une conviction qui est réellement inattaquable, c'est-à-dire même quand on met le sujet face aux contradictions logiques de sa pensée délirante ou de son idée délirante, la personne est absolument incapable de saisir justement donc le caractère faux de son idée et il persiste donc cette conviction que dans ma tête ce que je me dis et mon idée est absolument réelle et on va s'accommoder avec d'autres idées pour expliquer la contradiction dans le sens on peut effectivement se dire qu'on cherche à nous induire en erreur ou on cherche à nous manipuler, ce genre de choses. Donc voilà la définition du délire. Il faut savoir que quand on parle de délire, bon, on ne parle pas d'une maladie en particulier. Le délire est un symptôme central en termes de psychiatrie qui va être retrouvé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de maladies psychiatriques. Mais il faut savoir que le délire aussi peut intervenir dans des maladies non psychiatriques. L'exemple le plus connu et le plus simple, c'est le délire qui est causé par la fièvre, par exemple. En cas de forte fièvre, oui, la personne peut effectivement justement avoir des délires. Il peut y avoir d'autres types de maladies principalement neurologiques, quelquefois infectieuses ou inflammatoires, comme des encéphalites, ce genre de choses qui correspondent à l'inflammation du tissu cérébral et qui peuvent, à cause de virus ou quelquefois de pathologies auto-immunes, et ça peut effectivement donner des délires qui ne rentrent pas à ce moment-là dans le cadre de troubles psychiatriques. Le délire en troubles psychiatriques se définit comme étant la présence d'un délire en l'absence d'une cause somatique ou organique clairement retrouvée.
Alors, ces personnes à risque, est-ce que ça peut arriver à des sujets assez jeunes ou plutôt c'est à partir d'un certain âge ? Comment ça se passe ?
En fait, les pathologies délirantes, classiquement, on peut les observer à partir, grosso modo, dans toutes les tranches d'âge, à partir de l'adolescence. C'est extrêmement rare chez l'enfant. Ça peut exister des pathologies délirantes chez l'enfant prépubère, mais dans l'immense majorité des cas, on parle d'une pathologie chez le sujet après la puberté. Et ça peut, bien sûr, il y a un pic en fonction des maladies, mais il y a un pic qui est observé à un âge jeune, très grosso modo entre l'âge de 15 et 35 ans, mais il y a aussi un grand nombre de maladies psychiatriques qui vont se manifester par des délires, qui vont apparaître aussi au cours de l'âge mûr et aussi chez les seniors. Hein, chez les seniors aussi, il y a on va dire qu'il y a beaucoup de maladies qui peuvent induire le délire. Donc, et puis concernant les vulnérabilités individuelles, oui, personne n'est à l'abri d'un trouble psychique de manière générale, et puis personne n'est à l'abri d'avoir une pathologie qui va se manifester par un délire. Alors bien sûr, quand on parle de délire, il est nécessaire d'évoquer le plan psychiatrique, voilà, des maladies plus ou moins connues comme la schizophrénie, comme le trouble bipolaire, mais il faut savoir aussi qu'il y a des délires qui peuvent ne pas s'intégrer dans ces deux maladies-là, et comme il y a aussi ce qu'on appelle des bouffées délirantes, ça c'est quelque chose, donc c'est l'apparition extrêmement brutale d'un délire donc qui va être verbalisé par la personne avec une forte altération de son fonctionnement social, etc., et qui dans une proportion de cas non négligeable va disparaître et ne pas signer l'entrée dans une maladie psychiatrique. Donc aussi le fait d'avoir une bouffée délirante n'est pas obligatoirement annonciateur d'une entrée dans la maladie mentale.
D'accord. Alors, comment, c'est une question que se posent forcément beaucoup d'auditeurs, comment réagir face au délire d'une personne, tout simplement ?
C'est une excellente question parce que c'est vrai que logiquement, on se dit qu'il faut contredire la personne, essayer de lui démontrer voilà, la fausseté de son jugement ou de son raisonnement. Mais comme je le disais dans la définition, le délire est une conviction qui est inattaquable dans la grande majorité des cas. C'est-à-dire que toute tentative de faire faire critiquer la personne, de la faire critiquer ses idées, et dans l'immense majorité des cas, absolument vaine. Quand on est dans l'entourage d'une personne qui présente des désirs, la chose à faire, c'est vraiment alerter la personne ou alerter les soignants pour pouvoir amener la personne aux soins, étant donné que justement, comme on est persuadé de la véracité de nos idées délirantes, on est aussi persuadé qu'on n'est pas dans la pathologie. Et très souvent, pour ne pas dire que c'est la règle, malheureusement, les personnes délirantes n'ont absolument pas conscience qu'elles délirent. Hein, et donc, n'ont absolument pas conscience qu'elles sont peut-être en train de déclarer un trouble psychiatrique qu'il convient de traiter. Donc, c'est vraiment, en termes de réaction de l'entourage, c'est vraiment la vigilance par rapport au fait qu'il faut déclencher les soins, et puis la vigilance, surtout quand la personne commence à représenter un danger pour elle-même ou pour autrui. Parce que justement, les délires, il y a plusieurs thématiques qui reviennent assez souvent dans les délires, et il y a une des thématiques qui est extrêmement fréquente, c'est ce qu'on appelle le délire de persécution, c'est le fait d'avoir l'impression que les personnes dans notre environnement nous en veulent pour quelque chose, veulent nous faire du mal, nous suivre, ce genre de choses, et malheureusement, c'est vrai que on peut imaginer qu'avec ce genre d'idée, pour peu qu'il y ait beaucoup d'anxiété, eh ben la personne peut se mettre en danger volontairement ou accidentellement. Et donc là, ça signe l'urgence de la prise en charge médicale. Juste pour tordre le cou à des idées reçues, l'immense majorité des personnes qui vont avoir des idées délirantes ne représentent pas un danger pour autrui, c'est-à-dire ne sont pas dans le passage à l'acte agressif, comme on peut l'imaginer, et comme quelque part dans les médias, dans les films, etc., on peut se représenter la chose. Hein, l'immense majorité des gens, quand ils sont dans une pathologie délirante, vont beaucoup plus être victimes de violence ou être victimes d'eux-mêmes par accident, parce qu'ils auront voulu s'échapper à l'entité qu'ils imaginent qui est en train de les poursuivre, ou ce genre de choses. Donc, le premier risque, c'est vraiment que la personne se mettent en danger. danger du fait de son délire. Alors, il y a plusieurs types de dangers, c'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle des fugues pathologiques, la personne va quitter son domicile au milieu de la nuit pour disparaître je sais pas où, sans forcément prendre par exemple ses papiers d'identité, des moyens de subsistance, un peu d'argent, etc., sans prévenir l'entourage. Donc, on peut imaginer que, bon, voilà, quelqu'un qui va sortir et errer tout seul la nuit, et souvent peut-être même sortir de la ville, etc., risque de faire de mauvaises rencontres et peut, ça peut mal se passer, effectivement. Ça, d'une part. D'autre part, enfin, à part ces troubles du comportement, comme les fugues pathologiques, ce qu'on peut dire aussi, c'est que, et ce que je remarque, c'est que assez souvent, quand le délire n'est pas bruyant, c'est-à-dire, voilà, c'est quelque chose qui est limité vraiment à une thématique particulière, on peut se dire en tant qu'entourage, bon, on va laisser tomber, on va laisser la personne tranquille, voilà, elle a des idées un peu fausses, et puis ça va finir par rentrer dans l'ordre. Alors malheureusement, c'est pas vrai. C'est très rarement vrai, pour dire la vérité, mais dans l'immense majorité des cas, il y a une aggravation de l'état de santé de la personne, donc le délire va peut-être s'intensifier, on va avoir d'autres symptômes, d'autres signes cliniques de la maladie qui vont signer une altération encore plus importante. Donc, c'est ça, en fait, si vous voulez, le message principal, c'est qu'il ne faut pas négliger ce genre de choses. Quand nous, en tant qu'entourage d'une personne qui potentiellement souffre de ce genre de choses, voilà, il faut qu'on s'en inquiète assez rapidement. Et comme vous le disiez, pour des personnes qui sont pas médecins, eh ben justement, l'enjeu, c'est de recourir à un médecin.
Et ne pas tarder, surtout, j'imagine.
Exactement, et ne pas tarder. Et puis, faut bien préciser que justement, il y a un cadre légal par rapport à ce genre de choses. Comme je disais, comme la personne n'est pas consciente du fait de délirer et d'avoir donc par conséquent un trouble mental, eh ben assez souvent, l'entourage peut être amené à demander les soins de cette personne, un peu de force, hein, c'est-à-dire qu'elle soit contrainte et enfin au moins au début du traitement, parce que très souvent, quand la personne est traité et qu'il y a une disparition des éléments délirants, c'est là qu'il y a une prise de conscience,
oui,
que en fait on était dans la pathologie et qu'on était clairement dans des troubles du contenu de la pensée, c'est-à-dire un délire, quoi.
Alors en termes de traitement, docteur Lorabi, c'est essentiellement donc des médicaments. Donc
c'est essentiellement des médicaments, surtout quand on parle de délire assez floride, surtout quand il y a des éléments hallucinatoires qui sont associés. Je rappelle que les hallucinations, c'est la perception donc sensorielle d'objets qui n'existent pas ou de personnes qui n'existent pas. Et donc, si vous voulez, l'avènement des médicaments, ce qu'on appelle les neuroleptiques, fin des années 50, début des années 60, a totalement changé la prise en charge des personnes qui souffrent de délire. Parce qu'avant, ce qu'on faisait assez systématiquement, c'est que on enfermait les personnes des années et des années jusqu'à ce que le délire disparaisse éventuellement.
Ouais.
Donc c'était ça, grosso modo, la prise en charge.
Et ça existe encore, j'imagine. Ce genre de croyance existe encore, non ?
Oui, les croyances, elles persistent. On s'explique souvent les éléments délirants aussi en fonction des éléments qu'il y a dans notre contexte culturel, hein, notamment le fait d'expliquer ces choses-là par des choses surnaturelles, etc. Donc, mais le problème, c'est que c'est une perte de chance pour les patients.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire court, si quelqu'un, par exemple, qui est délirant, on l'enferme, entre guillemets, mais on ne lui donne pas de médicaments, c'est une perte de chance.
Mmh.
C'est une perte de chance. Les médicaments sont extrêmement importants. C'est ce qui va permettre de rétablir le contact à la réalité. Et puis, par la suite, on peut continuer donc la prise en charge avec de la psychothérapie, avec de l'ergothérapie, parce que bon, il y a beaucoup de maladies, je dirais, psychiatriques qui se manifestent par un délire, mais qui vont aussi se manifester par une perte des capacités progressives. Donc, on va essayer de travailler tout ça avec des choses, voilà, qui seront adjuvantes au traitement médicamenteux. La psychothérapie seule, parce que souvent, malheureusement, je reçois à titre professionnel ce genre de demande, la psychothérapie seule, dans un délire bruyant, etc., n'a quasiment aucune chance de donner une amélioration.
Oui. D'où ma question donc de cette prise de médicaments qui reste donc essentielle dans ce cas-là, bien évidemment,
oui.
Dans ce cas
oui,
précisément. Merci beaucoup, docteur Lorabi. On aurait
c'est
pu.
C'est moi qui vous remercie pour encore. L'invitation.
J'aurais beaucoup d'autres questions. Malheureusement, on n'a plus le temps. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous en direct
merci.
Depuis Casablanca. C'est un entretien réécoutable, évidemment, comme tous les autres, sur notre site medien.com. Je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie, docteur Lorabi, et vous êtes également secrétaire général de l'Association marocaine de psychiatrie psychodynamique à Casablanca. À très bientôt, docteur.
Excellente fin de semaine. Au revoir.